Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. C'était un homme sans âge qui estimait, comme les anciens, qu'à trop compter les années, on se précipite vers la vieillesse. C'était aussi un grand homme, au propre comme au figuré. Sa longue silhouette flirtant avec le double mètre est célèbre en Afrique depuis des décennies. C'est derrière la caméra qu'il écrira les plus belles pages de l'histoire du 7e art africain. Aujourd'hui, Adrien Chevrier et Gaël Gillon vous proposent le portrait de Djibril Diop Mambéty, 1945-1998, c'est toute une vie de cinéaste engagé et iconoclaste.
Je me souviens une fois, j'ai rêvé, moi qui suis Djibril, Djibril veut dire Gabriel, Gabriel veut dire l'archange, l'ange, selon la mesure des ailes. J'avais rêvé qu'un matin, avant les aurores, au moment où la petite rosée du matin nettoie par ici du fleuve, je suis monté aux abords d'un certain nuage où Dieu dormait. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le tour de ce nuage et j'ai osé me poser devant sa sérénité qui n'était pas sereine cette nuit-là, disons ce matin. Il avait quelques larmes qui lui tombaient. J'ai osé lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, ne le répète à personne. Je pense à ma mère. Mais je lui dis, mais comment n'es-tu pas celui qui a écrit cela veut dire que Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Il me dit, tu as raison. Je venais de perdre la tête. Dis aux artistes que je suis avec eux. Il était une fois.
Il était une fois. Ça a pu être. Quand ça a été, vous y étiez, c'est toi qui raconte. Nous, on écoute. Alors, écoutez, il était une fois.
Let you wait. Just want to be ready.
D'abord, avoir un billet. Oh, là, il fallait vraiment avoir de la chance, je veux dire, il fallait piquer de l'argent à grand-mère. Voilà, il fallait vraiment se démerder pour pouvoir payer son billet de cinéma. Et comme nous étions, surtout lui, à partir du moment qu'un prochain film était affiché devant la salle, c'était un rêve qui commençait de le voir. Et il y avait aussi des failles dans la construction des salles de cinéma, parce qu'il y avait des portes. On pouvait quand même voir un peu de lumière de l'écran. Et il pouvait rester là, lui, pendant tout le film, en imaginant, avec la complicité du son. Mais en même temps, c'était compliqué, parce que le son, il était en français, et nous, on ne parlait pas français. On n'avait pas encore été à l'école. Alors, comment interpréter ces histoires? Et chacun, à l'aune de son imaginaire, réécrivait le film qu'il était en train de voir, réinterpréter ce qui se passait. Et évidemment, chacun sortait avec une histoire qui était sa propre histoire.
Essayez de faire un trou, même regarder par un trou de serrure, vous allez voir que vous voyez un certain cadre. Justement, ça donne aussi des idées de cadre. Donc c'est peut-être ça qu'il a influencé quelque part plus tard, puisqu'en fait, il faisait ses propres zooms et ses propres montages à l'intérieur des films. Il déplaçait ses yeux pour pouvoir regarder telle et telle partie de l'écran. Donc ça donne aussi une façon de voir assez curieuse. Et puis effectivement, le son, qu'elle a du coup été omniprésent, parce que c'était des grandes salles de cinéma, donc il y avait un son très fort pour que les gens puissent entendre.
Quel genre de film on allait voir à la fin des années 50, au début des années 60, dans un cinéma comme ça, le cinéma ABC, à Colobane, à Dakar?
Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait énormément de salles de cinéma dans tout le continent. C'est des salles de cinéma de l'époque coloniale, hein, puisque l'indépendance du Sénégal, c'est les années 60. Hein. Donc, dans les années 50, quand il est né, enfin quand il était petit et qu'il allait au cinéma, on était encore dans les années coloniales, donc les salles de cinéma étaient faites pour les Français, bien évidemment, et elles étaient en grande partie approvisionnées par les Américains, qui diffusaient donc beaucoup de westerns. Le train sifflera trois fois, etc., etc. Ça, ils en parlaient tout le temps. Ils étaient devant le cinéma tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Je m'appelle Oasis Diop, frère de l'autre du groupe Diopandetti, et je suis auteur-compositeur.
Vous disiez, Djibril a été le premier musicien de la famille, mais qui ne jouait d'aucun instrument.
Oui, 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 c'est vraiment avec le recul que j'ai pu l'imaginer comme ça, et parce qu'il était passionné par la musique. C'est ça qui le passionnait. Il parlait plus de musique que de cinéma. Et en dehors de ça, il était aussi passionné par la danse. Et il y avait chez nous une... pas une école, mais les gens du quartier pensaient qu'ils pouvaient venir prendre des cours de danse avec Djibril. Chez nous, je me souviens même, je revois un peu la scène, il y avait un saxophoniste qui est venu, un guitariste qui est venu, moi je voyais ça pour la première fois. Et d'ailleurs, mon père qui arrive un jour, qui voit des musiciens, évidemment, les instruments de musique, c'était pour nous, pour nos parents, c'était vraiment le monde des damnés, quoi. C'était le monde du diable, c'était le monde... voilà, c'est mon père était dans une colère et tout le monde dort, il a hurlé. Je crois que c'est la dernière fois que je vois a rompu avec la musique, quoi, et peut-être qu'il s'est dit, mais bon, ça n'ira pas. Je ne pourrais pas faire ce métier ici. Donc, au départ, Djibril ne s'intéressait qu'à la musique. Ce qui explique d'ailleurs la part de la musique dans ses films.
Est-ce que votre caméra est en marche? Alors, caméra en marche. J'ai mes élèves ici. Alors, vous me posez la question de savoir comment on fait du cinéma. C'est ça? Alors, pour faire du cinéma, c'est simple. Il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux? Alors vous fermez les yeux. Vous voyez des points de lumière. Serrez fort. Les lumières se précisent. Il y a des personnages. La vie se crée. La tête fonctionne, mais pas plus que le cœur. Il y a toute une histoire qui se crée selon la direction du vent que vous voulez. L'histoire se crée. Et puis, on ouvre les yeux, on a une histoire. faites la même chose. C'est très simple. À chaque fois que vous voulez voir la lumière, il faut fermer les yeux. Voilà.
Pour moi, ce que je comprends, ça, en fait, au fond, c'est que y a quelque chose quand même à laisser faire. Il y a à accepter de surtout pas vouloir tout diriger, à laisser l'espace de ce qui se passe à l'intérieur, à pas tout comprendre soi-même, à se laisser diriger par le vent, par le flux, par quelque chose qui se met en, qui se, quelque chose qui se met en place. Si un batteur se met à penser à chaque coup qu'il met, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Je m'appelle Alain Gomis, je suis réalisateur. Français, sénégalais, sénégalais, français, tout ce que vous voulez.
Il était obligé d'improviser parce que... Mais en même temps, il avait une écriture, c'est ça qui est incroyable. Phénoménal, parce qu'il était doué, hein, je vois. Il y a une fois qu'il avait écrit un scénario, j'avais l'impression, finalement, parce qu'il avait écrit le scénario, il avait déjà fait le film. Et donc, ce qu'il écrivait finissait par être un peu du passé, tant je suppose. Et quand il venait sur le plateau, il n'avait plus envie de ça. Il avait envie de faire autre chose. Mais il avait toujours son scénario avec lui. Mais en fait, il faisait rarement ce qui était dans le scénario. Donc, il se nourrissait finalement de la journée, de la lumière, de ce qu'il pouvait voir le jour même.
C'est en ça que moi, il m'a surpris quand je l'ai découvert. C'est qu'il offre une possibilité de liberté. Dans ce schéma assez rigide de comment on doit faire des films, qui est présenté de façon toujours assez stricte, finalement, les figures qui offrent des possibilités de liberté, de pouvoir continuer à rêver à l'intérieur d'un film. C'est-à-dire que c'est ça, c'est la possibilité de ne pas enfermer le film seulement au propos lui-même, enfin à la façon dont on va énoncer le propos. Mais pas forcément énoncer le propos, au contraire, faire des petits morceaux et laisser le spectateur marcher, rêver à l'intérieur de ces morceaux-là. C'est beaucoup plus vaste que les petits éléments qu'il utilise. C'est ça qui est vraiment beau. Et il utilise ces éléments et celui qui les regarde, en fait.
Et comment est-ce que ça a joué dans votre cinéma, ça ?
Moi, ça a été vraiment... à cet endroit-là, à l'endroit de comment, particulièrement avec le son, il décale l'image du son et du coup, il offre des gouffres à l'intérieur desquels on flotte, quoi. Et donc, où effectivement, le cinéma s'inscrit à l'intérieur de... Enfin, l'écran, il est dans notre esprit, finalement. Et ça, ça a été, pour moi, beaucoup plus fort que celui qui vient te dire ce que tu dois penser. Cet espace-là de se fabriquer le film, cet espace-là de dialogue, de confiance, etc., ça a été pour moi vraiment une espèce de grande bouffée d'air, quoi.
Paris, Paris, Paris. Paris, Paris, Paris.
Paris, Paris, Paris. C'est sur la terre un coin de paradis.
Paris, Paris, Paris. Paris, Paris, Paris.
Paris, Paris, Paris. C'est sur la terre un coin de paradis.
Paris, Paris, Paris.
En 72, il tourne le film qui est considéré comme son grand chef-d'œuvre, en tout cas le film qu'il a fait connaître de la critique mondiale de cinéma, Tuki Buki. Tuki Buki, ça veut dire le voyage de la hyène.
C'est un film vraiment, c'est un autoportrait qui parle vraiment du fin fond de son existence, parce que tout le film, le déroulé aussi bien que les symboles, parce qu'il y a beaucoup de symboles dans Tuki Buki, parle de son enfance, mais c'est le côté traumatisant de son enfance, c'est surtout la présence des ébus et tout ce sang qui chicle à la fin du film. Et c'est aussi toutes ces cérémonies aussi que nous avons vécues, que lui a vécues, parce que moi j'étais pas comme Djibril, j'étais moins sensible, j'étais un peu plus froid, disons. Et je veux dire, les choses me perturbaient pas plus, mais Djibril, il était. C'était un vif, quoi. C'était un écorché vif dès l'enfance. Et Tukibuki, ce sang qui gicle finalement, vient de tous les zébus qui étaient sacrifiés pendant une fête qui s'appelait le Tamkhalit. Chaque mosquée avait droit à son zébu à sacrifier et la viande était partagée dans les maisons, etc. Et Djibril aimait tellement les zébus et il était. Son grand drame, c'était cette fête, parce que le zébu du quartier devait mourir. Oh. Alors, je dis, mon frère est fou. Mais alors, le zébu va mourir, on va bien manger, c'est tout. Mais lui ne le voyait pas comme ça. Et ce sang, on le retrouve dans Tukibuki. Il est très très important dans le film, parce que le film, quand même, il commence par les zébus. Il se termine par les zébus. Et donc, Djibril a vécu quelque chose à Colobán, dans cette fête païenne, avec cette passion de l'animal qui rentrait dans le quartier, que nous, on suivait, qu'on était derrière. Parce qu'on était petits, mais l'animal, souvent, c'est comme si on suivait un dinosaure. Énorme un zébu pour les enfants. Alors on suivait ces spectacles, mais. Et il savait comment ça allait se terminer. Donc voilà, je pense que Tukibuki, c'est ça. Mais en même temps, ça parle bien avant l'heure de l'histoire, finalement, de la fuite vers l'Europe. Avant même ce qu'on sait aujourd'hui de cette fuite de ces enfants africains vers l'Europe. Et ces enfants aussi. Qui sont traumatisés comme Djibril l'a été, et parce que on n'en parle pas. Ces enfants qui préfèrent mourir en mer, j'y arrive, ou alors c'est la mort, en dit long sur Tukibuki.
Lui venait de la campagne, elle était une jeune étudiante, Djibril était au milieu de ses personnages et ensemble ils ont écrit une histoire d'amour assez insensée, mais qui était vraiment de la réalité pure de deux jeunes. Et bon, une jeune fille qui est dans un quartier populaire qui essaie de passer ses examens, qui n'arrive pas parce que bon, il faut de l'argent, etc., etc. Un jeune homme qui donc vient d'arriver de la campagne, qui est un ancien berger, qui est perdu, qui a gardé de son troupeau juste les cornes dont il a orné sa moto. Donc deux jeunes qui vivent en plein leur jeunesse, hein, dans la ville de Dakar et la banlieue de Dakar, et qui sont affrontés à un problème d'avenir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc ils décident de partir. Pour arriver à partir, il leur faut de l'argent. Et eux donc volent pour avoir de l'argent. Donc il y a des courses-poursuites, il y a aussi des moments où ils rêvent, qui vont devenir, c'est d'ailleurs l'affiche du film, qui vont devenir président quand ils vont revenir, quand ils vont rentrer. Et donc finalement ils vont arriver à partir. Au dernier moment, il y a des histoires avec la police et tout. Donc elle monte sur le bateau, elle s'en va en fait, et lui décide de rester. Parce que c'est un choix déjà. En 72, il y a un cinéaste qui met en garde contre l'immigration et qui va dire « Faisons un choix, qui est celui de rester au pays et peut-être d'avoir moins d'argent ou d'avoir moins les mirages de la société occidentale, mais de faire grandir notre pays en même temps que nous. »
Alors, camarades, la révolution, elle va t'attendre encore plus longtemps, dit.
Je m'appelle Catherine Ruel, j'étais journaliste à Radio France Internationale. J'interviens un petit peu à titre de grand témoin et d'ami fidèle.
Comme mon héros dans Tukibuki, qui a refusé, pendant que le bateau était là, qui a refusé d'aller en Europe, moi aussi j'ai refusé de choisir les mécanismes de perception sur lesquels ce cinéma occidental s'est basé pour conquérir l'intellect du public sénégalais. Et évidemment, c'est un gros pari. J'ai choisi donc, je le dis en pesant mes mots, j'ai choisi de partir de l'intérieur.
s'est installé contre ce mur, entre le mur et la mer, comme une scène de théâtre antique, avec le sacrifice du bouc et la prêtresse. Et je trouve que déjà il y a...
Claire, Denis.
Cette impression, bon, le sang qui coule évidemment, mais c'est comme un... la peur adolescente, quoi.
Elle disparaît sur fond de mer, et là elle descend les escaliers, elle est tout en haut de, elle est en haut de l'image, elle descend très vite les escaliers, en, tout en haut c'est le ciel, elle saute, il élargit. Et elle continue de redescendre encore, sur le bord il y a comme un chemin de route fait par des pierres qui souligne le fait que c'est une grande pente. Là on passe derrière elle, et on arrive sur la mer, donc en trois plans déjà elle nous a fait comme une descente vertigineuse.
Et elle qui est debout, comme une déesse, les mains levées, elle a les bras levés comme les cornes dressées de la mobilette.
Et le son des corbeaux, enfin des... je ne sais pas ce qu'il a mis comme son, hein, c'est des milans je crois, mais on dirait des sons de corbeaux, commence à arriver, tout de suite il y met de la réverb, revient le son de la chèvre qu'on a vu être tuée, il y a un zoom qui nous amène sur les corbeaux, il y a de plus en plus de réverb. On revient à l'image du sang qui coule de la chèvre égorgée. Et le son des oiseaux qui est complètement lui tordu. L'image floue de la mer. Et des vagues tourmentées sur les rochers. C'est la corniche de Dakar.
Pour la première fois, il a entrevu que cette mer pourrait tuer beaucoup de jeunes gens. C'était comme si lui avait vu quelque chose de sombre dans ce rivage.
Il a une espèce, et particulièrement là, de maîtrise du rythme, comment faire monter. Il fait monter quelque chose comme une vague avec le son, puis ça s'arrête. Et il le fait s'arrêter non seulement au son, mais il le fait s'arrêter à l'image par les plans qu'on a vus. Et puis il revient par le son à nouveau pour refaire monter la séquence, non seulement avec les gémissements de la comédienne, mais avec la mère. Et là l'image, elle est, encore une fois, elle est utilisée presque au minimum grâce au son. Et dans cette espèce d'écart entre le son et l'image, il nous dit un troisième truc qui n'est pas là, et que tout le monde a compris, qui a même choqué des gens, parce que tout à coup, il trouvait ça très exhaustif, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais voilà, tout ça, c'est des écartements. Il n'y a aucun plan visuellement qui montre ce qu'on comprend, et pourtant, il a utilisé tous les éléments... sonore et visuel dans ce but-là. En tout cas, c'est très simple, quoi, à la fin. Et puis, un bateau qui passe, là, comme ça, avec presque comme une fin de journée, parce que il y a la lumière qui scintille sur la mer, quoi, et un bateau calme qui passe, quoi. Et là, ça y est, on est presque apaisé, quoi.
Parce qu'en réalité, la vie de ces deux acteurs, c'est exactement ce qui s'est passé dans le film. Et celui qui joue le rôle de Maury n'est jamais parti. C'est quand même extraordinaire que finalement leur destin de ces deux-là est le même dans le film.
C'est des gens qui ont fabriqué à ce moment-là aussi une autre image de l'homme noir. Dans sa dignité. Recouvrer sa dignité, ça passait aussi par là. Ça passait par ce port, par cet état, et par je fais à ma façon. Je fais du cinéma à ma façon. Ça ne voulait pas dire je fais un cinéma à la façon africaine. Mais moi, Africain, je fais du cinéma à ma façon. Un autre Africain fera autrement. Moi, je fais du cinéma à ma façon. Ça, c'était... Et de le dire, non seulement alors, à l'endroit des Européens, si on veut, mais de le dire à celui qui est à côté, au Sénégalais à côté de lui et forcément aux autres Africains aussi. Voilà, de prendre la parole, de prendre l'image, de prendre les sons, de prendre tout ça, de prendre possession. C'est un moment... Oui, c'est un moment de recouvrer quelque chose de soi-même.
Comment le public sénégalais prend-il ce film ?
Écoutez, cette soirée pour moi était très importante parce que j'avais un peu peur. Vous savez qu'il y a certains passages dans le film qui, je l'avoue, ne sont pas du tout populaires, n'ont pas du tout d'ailleurs cette volonté, cette prétention-là. Et il y a d'autres passages, ma foi, qui les intéressent et ils s'amusent. Mais vous voyez, j'ai un public de toute façon très réduit. Et ceci, je trouve, n'est pas un grand mal parce que je m'intéresse beaucoup à la recherche cinématographique avec ses inconvénients, avec ses aspects imperméables, etc. Je pense que nous devons, nous, agresser notre public parce que c'est un public... qui a été assez mal éduqué, si je puis dire, par des milliers de films occidentaux.
Des films peut-être trop traditionnels, même dans les films africains,
Films africains, donc je pense qu'il ne faut pas que nous fassions ce que notre public attend de nous, et je pense que c'est ce devoir d'agression qu'il faut à chaque fois mettre en avant.
La deuxième fois où je l'ai rencontré, en fait, c'est sur la projection de Tukibuki, à Dakar, quand voilà. Il l'a présenté au Théâtre National Daniel Sorano.
Et là, ça a été un échec.
Ah, total. Personne n'a rien compris à ce film. Les spectateurs huaient, partaient, etc. Enfin, c'était horrible. Hein. C'était une projection de tous les dangers. Ça a été épouvantable. Et le film n'a été reconnu, finalement, au Sénégal, beaucoup plus tard, mais après, parce que le film est passé à la quinzaine des réalisateurs, en 73. Mais pour les sorties 10 ans plus tard en France, hein. Donc le temps qu'on comprenne, en fait, l'audace formelle, parce que c'est ça qui a gêné les gens, du coup, ils n'ont pas vu la portée politique du film. Et c'était épouvantable pour Djibril. Ça a été atroce de se voir remettre en cause comme ça. Et ça a beaucoup fait aussi pour le détruire, quoi, parce que tout le monde était contre lui, y compris les cinéastes.
Ça a été épouvantable. US a été déprogrammé jours après. À quel moment, dans quelle scène est-ce que les spectateurs...
Mais tout le temps, depuis le début. Tout ce qu'ils ont vu, ça leur plaisait pas, quoi. Tout ce qu'ils voyaient de la société sénégalaise, déjà, parce qu'ils aimaient une société un peu plus magnifiée que celle que montrait Djibril, qui est quand même la réalité, quoi. C'est presque un documentaire, par moment, sur Colobane, sur la réalité des gens, sur les étudiants pauvres qui travaillent dehors, hein, bon, enfin, sur plein de trucs. Et puis les scènes d'amour, alors là, c'était terrifiant.
Entre 73, donc la date de sortie de Tukibuki, et Yen, s'écoule quasiment 20 années, durant lesquelles il ne fait pas de film, en tout cas, il ne sort pas de film.
Je pensais vraiment qu'il avait... envie de perdre le temps qu'il avait gagné dans son enfance, parce que dans son enfance il n'a pas arrêté de convoquer, d'interroger tout le temps, que ce soit la vie moderne, que la vie animiste profonde, la vie des symboles. Il n'a pas arrêté, absorbé, vivre, toujours dangereusement d'ailleurs. Ayant fait tout ça, je pense qu'il avait vraiment besoin de souffler, et comme je le dis, que Tukibuki, son premier long métrage aurait pu être son dernier film. Et je pense qu'il avait besoin de 20 ans d'errance à ne rien faire.
Il a été détruit par la réaction du public, mais vraiment détruit. Et même la réaction, même après le succès du film, à la quinzaine des réalisateurs, la sortie 10 ans plus tard en Europe, les critiques extraordinaires et tout, ça l'a pas empêché de penser qu'il avait raté quelque part quelque chose. Donc il est parti dans une dérive, mais une vraie dérive, hein, où il a ouvert un peu des trucs de photos et tout, enfin bon, la galère, quoi, la dérive, vivre dans la rue, etc. Et en fait, c'est Idrissa Ouédraogo, qui est un autre cinéaste du Burkina Faso, qui un jour, qui était fou des images, comme tous les jeunes cinéastes africains qui avaient pu voir le film Tukibuki, qui s'est dit, mais où est Djibril? Donc ils sont partis, en fait, Idrissa est venu du Burkina jusqu'au Sénégal, ils ont retrouvé Djibril dans un état pique-pendre, pique-lamentable, mais voilà, il s'est dit, il faut absolument que cet homme refasse du cinéma. Et donc il lui a confié le making-of de son film Yaba, et c'est devenu un petit documentaire magnifique. Et donc c'est là où il a repris, d'une part lui, l'envie de filmer, et d'autre part où les producteurs l'ont retrouvé.
Pendant ces 20 années de silence et de retrait, ces années où il rattrapait le temps qu'il avait trop rapidement gagné, pendant ces années, il crée une fondation qui s'appelle Yad Ikon.
Un corps pour les enfants.
Alors qui était Yad Ikon et quelle était cette fondation ?
Yad Ikon était juste un personnage emblématique. Hein. Yad Ikon, c'était réel, mais en même temps, nous en avons beaucoup rajouté, comme Robin des Bois. Voilà, c'est un Robin des Bois sénégalais et qui a vraiment vécu, parce qu'il y a des photos de lui. Moi, j'ai été dans sa maison. Donc voilà, c'est un personnage idéal qui aime les enfants, qui les protège, qui vole pour eux, qui leur donne à manger. Surtout qui va au cinéma et qui ouvre les portes pour que tous les enfants rentrent. Parce que ça, c'était réel aussi. Il y a dit qu'on a fait ça. Et voilà. Peut-être que Djibril a toujours aimé que Yadikon vienne le sauver. Il en a rêvé.
Mais alors cette fondation, c'était lui qui devenait Yadikon ?
Oui, cette fondation dédiée à Yadikon, c'est vraiment tout Djibril. Avec l'enfance, je pense que... Parce que... Son enfance a été, malgré ce désir de vie et cette vitalité, c'était une enfance difficile. Parce que c'était un garçon sensible. Et quand on est sensible, tout devient difficile. Tout devient insupportable, en réalité. On peut mourir de sensibilité. Parce que juste on est sensible, parce qu'on ressent des choses que personne ne ressent. Parce qu'on est, faible devant l'injustice, on est faible devant le malheur, on est faible devant... voilà.
Yad Ikon, il est écrit en bas, il a rêvé d'une Afrique libre et grande, où celui qui a faim ne sera pas piétiné. Il a mené la vie difficile aux colons et à leurs valets locaux.
Quand je l'ai rencontré, quand j'étais à sa rencontre, j'étais le voir, il m'a dit, je lui ai dit que je voulais faire du cinéma, tout ça, etc.
Vous avez quel âge là ?
18-19 ans. J'ai amené un scénario et il m'a dit, bon, assieds-toi, je reviens. Il est parti plusieurs heures avant de revenir et quand il est revenu, il m'a dit, bon, c'est bien, tu peux revenir demain. Voilà. Je veux dire que ça se passe dans les silences entre les mots, ça se passe dans les silences entre les images, etc., dans les espaces. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de comprendre ce qu'il dit, d'essayer de le déchiffrer comme ça sur le sens réel. C'est plus, je crois qu'il fonctionne comme ça, par résonance. Et voilà, moi, il m'a donné un exemple tout de suite, très concret.
C'est bien, tu peux revenir demain, vous êtes revenu le lendemain ?
Je suis revenu le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain encore, ouais.
Et il a lu le scénario, c'était quoi, la France ?
Ouais. Il a lu, il m'a parlé d'autre chose, et en me parlant d'autre chose, il a conclu en disant, tu vois tout le travail qui te reste à faire.
Il y a eu Tukibuki, il y a eu Yann, il y a eu Le Franc, qu'est-ce qu'il y aura encore ?
C'est très simple, cette trilogie. Yann m'a coûté 7 années de ma vie. Alors je ne veux plus trop tomber dans ce piège-là. Alors j'ai trouvé une astuce. Une trilogie de petits films, histoire de petites gens. Le premier, Année de Franc. La deuxième histoire, La petite vendeuse au soleil. La troisième histoire, L'apprenti voleur, c'est quand même un tout petit peu plus facile. Un court-métrage à gérer comme très long. Et finalement, trois courts-métrages à l'arrivée, ça ferait bien un long-métrage. Et un court-métrage est un exercice difficile. La comtesse de Monterlan écrivait une lettre à sa fille. Une longue lettre, mais trop longue lettre à son goût. Elle met à la fin un post-scriptum. Je m'excuse de n'avoir pas pris assez de temps pour t'écrire plus court.
Je vous offre quelque chose à boire.
Écoute plus souvent le vent que les êtres. La voix du vent s'entend. La voix de l'eau se sent.
La nuit s'achève au ralenti. Un ivrogne au loin. Tempête contre les vivants. Un aboyeur lui emboîte la voix. Réveillez-vous, bonnes gens. C'est l'heure de prier. Toi, femme, rends-lui son pantalon. Debout, homme Jean, c'est l'heure de prier. Les clochards embusqués reprennent peu à peu leur portrait du jour. Les femmes sortent, les bassines vides des maisons. Un moteur au loin s'échauffe pour le rallye quotidien. Les humains debout commencent déjà à s'engueuler. Marigot est un mauvais payeur. Et comme chaque matin, on dirait au propriétaire tambourine à sa porte. Mais là, ce pauvre homme perdu, ce musicien, qui est tombé dans le piège du franc parce qu'on a confisqué sa guitare, parce qu'il ne payait pas ses loyers, tombe dans ce piège de ce biais de l'autre. Dès lors, il ne sera plus jamais un révolutionnaire parce qu'il aura déjà trouvé un maître, le franc. Le franc. Parlons-en franchement. La vraie révolution que je voudrais en Afrique, puisque les choses sont ainsi, que nous parlions franc et qu'on laisse le français aux hommes de l'Hexagone. Nous parlons franc. Les nénuphars. Les étangs de nénuphars où j'allais le matin quand j'étais tout petit. Le premier rayon de soleil. La première élection s'échappait au bord de l'étang du nénuphar, trouvait une fleur mauve, à peine ouverte, et mettre son jeune sexe dedans. Regardez la fleur jusqu'à ce qu'elle englobe, ce qu'elle vous englobe et qu'elle meure. Là, le jour s'est levé. Vous avez prié.
Voilà, quoi qu'il a tout perdu, son billet est parti, sa porte, etc. Sa porte est partie avec la mère et en fait le billet était collé sur sa tête, quoi. Enfin, le billet de loterie était collé sur sa tête. en même temps, l'affiche de Yadikon disparaît dans l'eau, quoi. C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, ça? Qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu? Entre l'image idéale du vivre sans argent et ce billet retrouvé, qui peut le faire sortir de... Et là, c'est pareil, hein, il joue, alors là, il fait ce qu'il veut. Hein. Le gars, il chante, en même temps il rit, en même temps, enfin, il passe d'un temps à l'autre. Il n'y a plus aucune linéarité, il y a une linéarité temporelle, mais on passe d'un temps à l'autre. Et c'est juste sur son envie, sur le rythme, sur ce qu'il nous impose, là, sur ce qu'il nous impose. Il joue sur trois moments différents, là, qui montent en parallèle. Et c'est unifié par la musique.
C'est juste un homme à qui on a confisqué l'âme. Son âme, c'était un congoman. Un bel instrument de musique. Et quand il n'avait plus ça, il priait un Robin des Bois. Un héros d'enfance. Il y a du Konjaï, vous pouvez l'appeler quel que soit. Dans la misère, donc, il le priait. Un billet de loterie, qu'il gagne, il le perd. Le choix est là. Il perd son âme, c'est-à-dire qu'il perd le poster, qui s'en est allé vers la mer. C'est le même problème d'accouplement que nous voulons faire avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Ces butasseries qui ne peuvent fleurir que sur la misère des peuples. En échange de votre âme, je vous organise votre vie quotidienne.
Il n'a même pas tourné à l'extérieur de Dakar. Il tourne à Dakar, c'est sa ville, c'est cet endroit-là. Les gens qui filment, et on les voit d'ailleurs, des Badou Boys, ils se filment eux-mêmes en train de tourner. Donc c'est aussi une bande. C'est des gens à la fois dans le milieu de la culture et qui sont presque des rockers, quoi, d'une certaine façon, à l'intérieur de cette société à ce moment-là, quoi. Donc c'est une démarche aussi, c'est une démarche de groupe. Et donc son territoire, c'est celui-ci, c'est celui de Dakar à ce moment-là. Et effectivement, ça paraît presque naturel qu'il se soit inscrit sans cesse là-bas. Mais il y a un vrai ancrage politique dans les films de Diego Diop Mambéty. Tout de suite, dès qu'on trace City, il y a cette façon dont ce territoire fonctionne, son rapport particulier et ambigu avec la France. Cette volonté de départ qui filme très vite et en même temps lui il reste justement. Il y a quelque chose où il s'inscrit vraiment, et même en continuant à faire des films, il continue d'aller vers des personnages qui sont vraiment les personnages les plus ancrés, ceux qui peuvent pas bouger presque.
Sud, l'Afrique est sortie de la zone franc. Sud.
Soleil, l'Afrique quitte la zone franc. Soleil, l'Afrique quitte la zone franc. Soleil.
Après le franc, son dernier film, donc, La petite vendeuse de soleil. Est-ce que vous pouvez nous en raconter le scénario?
Je me souviens, j'étais à Dakar. Il me parlait d'une petite fille qui était avec sa grand-mère. Mais une histoire vraie. Encore la musique, parce que la grand-mère chantait. Pour mon Dieu. Toute la journée, assise, pas loin d'une banque d'ailleurs, en face du port de Dakar. Et donc, C'est sa petite fille qui l'a guidée dans la ville, etc. Qui était toujours avec elle. Et Jibril, qui habitait par là. Ah, ça le déchirait. Encore l'histoire d'une gamine. En plus, une gamine infirme. Très belle fille. Et qui avait eu la polio. Mais Jibril, il va chercher la même fille pour faire du film. Non, c'est pas la même fille. Il va chercher une fille infirme pour faire le film. Donc, il recompose un peu toute l'histoire. Ce qui me touche dans ce film, parce que nous, on avait une... Jibril avait une grand-mère qui s'appelait Mambeti Sen, qui avait la polio. Une belle femme, qui était vraiment la plus belle de la famille, mais qui ne pouvait pas marcher, et qui était d'une dignité, qui passait son temps à se maquiller et qui ne sortait pas, à qui on rendait rarement visite, qui ne rendait pas visite aux autres, elle se maquillait tout le temps, tellement fière, une sorte d'aristo, mais étonnant. Et Jibril, tout petit encore, était marqué par cette dame. Mais dans La Petite Vendeuse de Soleil, c'est Mame Bétisène qui revient. Et Jibril veut que Mame Bétisène se relève et qu'elle affronte la vie malgré son infirmité, malgré ses handicaps et qu'elle se projette dans la vie. Mais c'est encore une histoire qui vient de quelque part.
Donc il met en scène une petite fille handicapée qui a du mal à marcher, qui a une jambe un peu difforme, qui marche avec des béquilles et qui se met dans la tête, parce que c'est une petite fille qui ose, comme dans tous les films de Jibril, les femmes osent, elle décide d'aller vendre le fameux Soleil. Le Soleil, c'est un des journaux les plus importants de Dakar. Il y a plusieurs journaux avec plusieurs options politiques. Hein. Donc le Soleil est un des journaux importants d'un parti politique. Et donc, elle décide, il n'y a que des garçons qui font ça. Voilà. Donc, c'est encore une fois, Jibril, dans toute sa splendeur, c'est montrer que, voilà, la société peut changer aussi. On n'est pas obligé de rester avec l'image de la fille comme elle est. Et cette petite fille avec ses béquilles est absolument hallucinante et elle va partir à la bagarre, quoi. Et les autres, les bandes de garçons ont beau la faire tomber, mettre ses béquilles à l'eau. Elle se relève tout le temps et elle est aidée par un jeune homme, un copain à elle, qui lui raconte des histoires. Et ça aussi, c'est Jibril, parce que ça fait partie de sa culture, les contes traditionnels. Je vous disais qu'il était érudit hein, dans plusieurs cultures, et dans justement La Petite Vendeuse de Soleil, il y a un moment au milieu d'arbres, de racines d'arbres, où elle était avec le petit garçon qui l'a aidé, et il se raconte un conte. Et ça, c'est vraiment aussi le cinéma de Jibril. Mais c'est un film politique là aussi. Elle est aussi en agression avec la police, avec l'autorité, et puis elle arrive à passer par-dessus l'idée que les gens se font d'une petite fille. Donc finalement, c'est elle la meilleure vendeuse. Enfin, il y a tout un tas d'histoires comme ça, mais qui sont liées. C'est ça, les petites gens. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une société avec les gens qu'on appelle les petites gens et qui, en fait, sont peut-être les plus intéressants et les plus à même de faire bouger.
Tu parlais de la musique qui était à l'origine de ces films. Mais justement, dans La Petite Vendeuse de Soleil, on a le sentiment que la musique est à l'origine du film. C'est le bruit des béquilles sur le... Et d'ailleurs, j'avais le sentiment, vous allez me dire si c'est le cas, que cette musique extraordinaire que vous composez à la fin, on part de là aussi.
Et je me rappelle, j'avais... Parce que j'avais des chutes de musique que j'avais fait en studio avec Loïc Taïbrek, qui est un joueur de cornemuse. Et j'entends de l'autre côté Loïc qui souffle et qui s'arrête. C'est comme un vent qui n'arrive pas à partir. Alors je dis, alors ça m'intéresse pour ce film. Il n'y a pas que ça, mais quand la fille essaie de se lever, c'est vraiment le joueur de cornemuse qui essaie de faire démarrer son son. Parce que la cornemuse, c'est un instrument aussi archaïque, extraordinaire. Parce que tu souffles, mais il se passe quelque chose. En fait, c'est comme un oiseau, un albatros qui essaie de voler à cause de son poids, qui chute plusieurs fois avant de prendre son envol. Quand les garçons, arrivent et bousculent cette fille fragile qui tombe. D'ailleurs, elle a été bousculée au port et sa béquille s'en est allée dans la mer. Heureusement que son compagnon savait nager et est allé chercher la béquille au fond de l'eau. Et quand elle a été bousculée à la fin, et moi, ça me... Cette fin, quand le garçon lui dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Et elle dit « on continue ». Et ça, c'est... Ça ne pouvait se terminer que comme ça.
Il la prend sur son dos.
Oui, oui.
Ils partent comme ça dans la lumière.
Ils partent dans la lumière. Et les petits voyous leur font d'ailleurs une haie d'honneur. Tu vois, parce que là, tout d'un coup... Ils découvrent qu'ils ont affaire pas à une pauvre vendeuse de journal. Ils ont affaire à une femme.
Il faut se rappeler que cette génération-là, elle sort, elle grandit dans... Pendant la colonisation, elle se fabrique au sortir des indépendances. Que cette espèce de chose, de refabriquer une image de soi, même de soi devant le miroir, de soi dans toutes ses interactions avec les autres, ils ont fait un travail monumental de premier pas, de reprise de conscience, de premier pas. C'est difficile pour nous de l'imaginer. On peut qu'essayer de se mettre un petit peu à leur place, mais il a fallu, vous vous rendez compte, de peu de temps avant, on ne peut pas faire de cinéma, c'est juste interdit pour les indigènes de faire du cinéma. Donc, de réapparaître à soi-même, face à soi-même, je ne parle même pas de l'imposer à l'autre, mais de réapparaître face à soi-même, alors qu'on le sait hein, profondément, mais comme digne de tout, et comme entre autres digne de prendre la parole, de faire de l'image, etc. Ce que, dont tu ne doutes pas, mais tu ne doutes pas en l'affichant, mais le faire, le reprendre, c'est presque une autre étape. Donc, cette prise de parole et cette prise de parole désarticulée, cette prise de risque, cette prise de machin, etc., c'est quelque chose de fondamental à ce moment-là. Au moment où il le fait, c'est absolument nouveau. Au moment où il le fait, c'est pas que c'est une révolution formelle, c'est que c'est la nécessité de dire, la nécessité de reformer quelque chose, la nécessité de reformuler, la nécessité de... C'est tout ça. Et c'est ce qui fait la force des films, c'est ce qui fait la force des œuvres d'une manière générale. C'est quand elles réinventent le présent. Et c'est ce qu'il fait, lui, à son époque. En prenant tout ça, sa ville, tout ça, il réinvente quelque chose, dire ça, c'est notre maintenant. C'est pour ça que ces films restent présents. Parce que après, tous les présents se joignent, quoi, qu'ils sont là du 17e ou d'aujourd'hui. Voilà. Donc lui, il nous a donné une force de présent extrêmement forte. Qui est une force d'action, qui est une force de création.
Je me rappelle à un moment donné, il était malade quand on était petit. Et parce que, donc on disait qu'on avait cherché à l'empoisonner, C'était quand même quelque chose de très très gros. Et on l'a amené chez un marabout, guérisseur, parce qu'il était vraiment malade. Et le marabout lui a fait boire quelque chose. Et Gibril a vomi une saleté absolument incroyable. Et il était sorti de cette maladie. Et le lendemain, ce guérisseur a rendu l'âme. Ce qui est extraordinaire, que ce guérisseur portait le même nom que Gibril. C'est un Africain habité. Il a fait du cinéma. Il aurait pu être un grand dignitaire en Afrique aussi. Gardien de tradition profonde, importante. Mais il a fait des films.
L'homme qui va devoir peut-être mourir au bout de ce film vous salue. Il saura pourquoi il meurt, mais pas comment. Toi non plus, tu ne le sauras. Seul quelqu'un sait, c'est la magie. Si tu veux tout savoir, tu casses la magie. Le cinéma, c'est de la magie.
Chers auditeurs, nous interrompons notre émission pour vous donner une nouvelle d'une extrême gravité. La crise entre le Sénégal et la France prend une dimension que nul ne pouvait prévoir à sa naissance. C'est-à-dire, vous le savez, le jour où la délégation sénégalaise s'est retirée de la conférence sur la création d'une race africaine de chiens de luxe. Les troupes sénégalaises viennent de débarquer sur la côte d'Azur. L'extraordinaire embonpoint des éléments sénégalais sème la panique parmi les troupes estivales françaises. La Croix-Rouge internationale est débordée. Le maire de la région déclare... Comme par le passé, ni nos hommes, ni nos femmes ne se laisseront faire. À New York, ce soir, réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Dieu et l'ONU sauvent la France. Et à mesure que les dépêches nous parviendront sur cette situation, nous vous les transmettrons. Reprenons maintenant le cours normal de notre émission. La vie n'étant pas faite que de bossa nova, nous allons tout de suite écouter Tristesse du soir.
C'était Djibril Diop Mambéty, le cinéma comme il l'entend, avec Claire Denis, Wassis Diop, Alain Gomis, Catherine Ruel. Coordination Christine Bernard, avec la collaboration de Sylvia Favre et Quentin Vaganet. Archivina Marie Chauveau, mixage Valérie Lavalard. Merci également à Martine Brun, Timour Diop, Christophe Nangaoli et merci à Amélie Perrault. Un documentaire d'Adrien Chevrier et Gaël Gillon.
Moi, je filme comme je mens. Et quand je mens, c'est pour rendre les choses plus jolies.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie, sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre, Elna Fraisse et Anne-Lise Signoret de la bibliothèque de Radio France. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.